Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h à Abidjan et en temps universel. Le ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Timoko Touré, a démenti aujourd'hui avoir supprimé une aide à la presse, une information ayant provoqué la colère des patrons de presse qui avaient menacé de ne pas sortir de journaux lundi. Il n'y a pas eu de suppression. Les entreprises éligibles vont recevoir leurs subventions comme prévu, a souligné le ministre, joint par l'AFP au téléphone. La veille, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI, avait annoncé une journée presse morte pour protester contre la décision de ne plus accorder aux 30 entreprises de presse l'aide à l'impression de 800 millions de francs CFA dont elles bénéficiaient depuis 3 ans. Au Niger, la télévision Labari a repris ses émissions jeudi après-midi après 46 jours de fermeture. Elle faisait partie de 7 radio-télévisions privées fermées en juillet par le fisc qui leur réclamait des arriérés d'impôts. Ali Idrissa, promoteur du groupe de presse Labari.
Le déblocage est intervenu quand nous avions écrit un courrier à la Direction générale des impôts pour leur dire que nous souhaitions qu'il y ait un traitement équitable. C'est-à-dire que Labari puisse aussi bénéficier des mêmes circonstances que les autres médias. Certains dont la fermeture n'a duré que quelques heures, d'autres quelques jours. Nous, on est parti jusqu'à 46 jours. Effectivement, la Direction générale des impôts a accédé à notre requête en acceptant que nous puissions être dans la situation de pouvoir commencer un premier versement et prendre des engagements mensuels de paiement, mais tout en se disant que nous sommes dans un contentieux fiscal qui prendra son bout de temps et qu'au finish, nous serions amenés à savoir exactement qu'est-ce que nous devions payer.
Ali Idrissa, promoteur du groupe de presse Labari, joint à Niamey par Timothée Donangmaï. Le parti au pouvoir au Soudan a dévoilé la composition du nouveau gouvernement après le limogeage du cabinet sortant par le président Omar el-Béchir dans un contexte de difficultés économiques croissantes. Monsieur Béchir avait limogé dimanche les 31 membres du gouvernement afin de corriger la situation dans laquelle se trouve le pays, selon la présidence. Il avait nommé Mouattaz Moussa Abdallah premier ministre, le chargeant de former un gouvernement plus restreint. Lors d'une réunion tard hier soir, le parti du Congrès national NCP a approuvé la liste des ministres proposés par Mouattaz Moussa Abdallah, indiqué à la presse Faisal Hassan Ibrahim, un haut conseiller du président. Les membres du nouveau gouvernement formé de 21 ministres doivent avoir leur première réunion lundi. Les élections législatives au Mali ont été repoussées d'un mois et se dérouleront désormais les 26 novembre et 16 décembre, a annoncé jeudi le gouvernement, qui explique ce report par une grève des magistrats ayant empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Les législatives devaient avoir initialement lieu les 28 octobre pour le premier tour et 18 novembre pour le second, soit exactement 3 mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Cameroun se prépare à l'élection présidentielle d'octobre sur fond de tensions dans les régions anglophones du pays. Les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité et des séparatistes anglophones armés qui se réclament d'un État indépendant, l'Ambazonie. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé que l'élection présidentielle du 7 octobre n'aurait pas lieu en zone anglophone, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour en parler, John Lyndon s'est entretenu avec Cabral Libil. Il est le plus jeune des 9 candidats engagés dans cette élection présidentielle du Cameroun.
C'est clair que dans certaines zones de la partie anglophone du Cameroun, il ne sera pas possible d'organiser des élections. Même dans l'hypothèse où la guerre, puisqu'il s'agit bien d'une guerre, j'ai pu le vivre par moi-même parce que je me suis rendu à Batibo, qui est une localité de cette zone-là. Même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, ce serait difficile parce que les dégâts sont tels qu'on ne pourrait pas les rattraper d'ici le 7 octobre. Néanmoins, il faut y aller parce que la solution passe par là. Je suis de ceux qui pensent, et avec beaucoup de Camerounais, que 40% de la solution à la crise anglophone, c'est le changement du président de la République. Ce serait une chose. Une fois donc que moi je serai élu, la première chose que je ferai, c'est que j'irai dialoguer avec mes compatriotes anglophones, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Ce qui a exacerbé cette crise, c'est le mépris et la condescendance. Deuxième chose, je reformerai la forme de l'État. Je mettrai donc en place un État régional, ce qu'on appelle le régionalisme, qui est en fait à mi-chemin entre l'État unitaire et l'État fédéral, parce que nous pensons au parti univers qu'on peut arriver aux mêmes objectifs que le fédéralisme en passant par le régionalisme. Et puis troisième chose, nous sortirions le Cameroun de la captivité francophone anglophone dans laquelle nous sommes depuis 1916 en érigeant les langues nationales au rang de langue officielle.
Un plan donc chargé alors. Mais pour cela, il faudrait déjà gagner cette élection. Mais l'opposition va justement à cette élection en rang dispersé. On s'attendait à une candidature unique de l'opposition, surtout pour une élection à un tour. Comment envisagez-vous les choses?
Il faut rappeler qu'en 1992, un candidat avait gagné l'élection présidentielle à un tour au Cameroun. Certes, il n'a pas pu le prouver, mais il y avait 13 candidats à l'époque. Maintenant, il y en a 9 dont les chances de victoire pour un des candidats de l'opposition, de notre point de vue, sont intactes. Ça, c'est d'un. Mais il est clair que si les opposants se mettent ensemble, ça accroît les chances de victoire. C'est ce à quoi nous travaillons effectivement. En ce qui me concerne, j'ai adressé une correspondance à tous les autres opposants, leur suggérant que nous nous retrouvions en conclave et que nous arrêtions des critères de choix objectifs d'un des candidats qui dirigerait dans la coalition et qui gagnerait, gouvernerait le Cameroun et au bout de 5 ans organiserait des élections auxquelles il n'est pas candidat. En attendant, nous suggérons également que nous nous retrouvions afin de mettre en place une équipe collective des représentants dans les bureaux de vote. Il y en a plus de 20 000. La dernière fois même, 23 000. J'affirme aujourd'hui, fort de ce que j'ai pu ressentir sur le terrain, j'ai fait 2,5 fois le tour du Cameroun, le président sortant ne peut pas gagner. Il s'est taillé un code électoral sur mesure, il ne peut pas vouloir d'élection à 2 tours parce qu'il sait que ça lui serait fatal. Il compte sur une élection à 1 tour pour construire, comme ils en ont l'habitude, leur fraude. Donc, si nous avons des représentants, nous, de l'opposition, dans chaque bureau de vote au Cameroun, le même soir, nous pourrions publier les résultats parce que la loi oblige les présidents du bureau de vote à faire des PV et les mettre à disposition des représentants des candidats.
Vous êtes jeune et le chômage est un fléau en ce moment au Cameroun. Cabral Libi, président, qu'allez-vous faire pour les jeunes en quelques secondes?
On revient constamment sur ma jeunesse, c'est vrai, j'ai 38 ans, mais je rappelle toujours que le tout premier président du Cameroun est arrivé à cette fonction en 1960 à 36 ans, donc de 2 ans mon cadet. Donc je n'invente pas, je ne suis pas quelque chose d'étrange dans le champ politique. Mais effectivement, on parle beaucoup de chômage, mais on ne parle pas de sous-emploi. Le sous-emploi, en réalité, qui maintient les Camerounais dans la misère sous une apparence d'employabilité. Donc, on va régler la question d'abord du sous-emploi par le relèvement du pouvoir d'achat en réformant le SMIC, qui cessera d'être interprofessionnel pour devenir intraprofessionnel, c'est-à-dire un SMIC pour chaque corps de métier. Puis, par l'agro-industrie, la construction et les investissements, nous l'avons démontré, nous créons en 5 ans 3,5 millions d'emplois.
Cabral Libi, candidat à la présidentielle du Cameroun. Le principal parti d'opposition zimbabwéen a annoncé aujourd'hui le report de la cérémonie symbolique d'investiture de son chef Nelson Chamisa comme président légitime du pays en raison de l'épidémie de choléra qui sévit dans la capitale Harare. Les autorités du pays ont interdit cette semaine tout rassemblement public dans la capitale en raison d'un sérieux épisode de choléra qui a fait au moins 25 morts depuis la semaine dernière, selon le dernier bilan du ministère zimbabwéen de la santé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine vont se rencontrer lundi pour s'entretenir de la Syrie au moment où Ankara s'efforce d'arracher un cessez-le-feu dans la province rebelle d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Les deux dirigeants se sont rencontrés la semaine dernière lors d'un sommet consacré à la Syrie organisé par leur homologue iranien Hassan Rouhani, et c'était à Téhéran. La Corée du Sud a inauguré ce vendredi son premier sous-marin d'attaque capable de tirer des missiles de croisière comme des engins balistiques, en dépit du dégel en cours avec la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. C'est un bond en avant pour l'industrie sud-coréenne de défense, a déclaré le président Moon Jae-in lors de la cérémonie de lancement dans les chantiers navals Daewoo, où il a été conçu et construit. Les premières rafales de vent de l'ouragan Florence accompagnées de fortes pluies se sont abattues jeudi après-midi sur la ville portuaire de Wilmington en Caroline du Nord. L'ouragan reste dangereux même s'il a été rétrogradé en catégorie 1. Au total, entre 1 et 3 millions d'usagers pourraient être victimes de coupures d'électricité dans les deux États de Caroline. Plus de 1000 vols ont été déjà annulés en raison de l'ouragan selon les médias américains. Et puis Andrew Cuomo est sorti vainqueur sans surprise de la primaire démocrate qu'il opposait à l'actrice de Sex and the City, Cynthia Nixon, pour diriger l'État de New York. Le gouverneur Cuomo, en poste depuis 2011, est l'un des gouverneurs les plus actifs face à Donald Trump. Il est désormais quasi assuré d'être réélu pour 4 ans supplémentaires lors du scrutin du 6 novembre, qu'il opposera au républicain Mark Molinaro, New York étant considéré comme un bastion démocrate. Le prochain journal, c'est dans exactement 50 minutes, en compagnie d'Henri Francisque. Bon week-end à vous tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.